Radio Okapi. Grande interview.
Du 2 au 13 décembre 2019 se tiendra à Madrid, en Espagne, la 25e conférence sur le climat des Nations Unies, la COP 25. Et pour en parler, nous recevons dans cette émission Isidore Kwanja Ngembo. Il est politologue et analyste des politiques publiques, également analyste des questions liées au changement climatique. Merci à Michel Kifinda qui réalise cette émission. La mise en onde est assurée par Patrick Kiasongwa, présentation et coordination. Kéline Kouté, bienvenue à tous dans cette émission. Isidore Kwanja Ngembo, bonjour.
Bonjour Madame Kouté.
Avant d'aborder la question au centre de notre entretien de ce jour, suivons d'abord ce portrait de vous que nous brosse Michel Kifinda.
Portrait.
Auteur du livre Régime international des droits de l'homme à l'épreuve des climats et de plusieurs articles sur les questions liées au changement climatique et aux migrations de populations, Isidore Kwanja travaille depuis une dizaine d'années pour l'administration publique canadienne. Conseiller à la direction de l'Afrique centrale et occidentale au ministère des Affaires étrangères du Canada, Isidore Kwanja a assumé les fonctions d'analyste des politiques publiques à la direction des affaires internationales sur les changements climatiques au ministère de l'Environnement du Canada. Dans le cadre de cette fonction, il a eu à analyser les politiques forestières et environnementales des pays d'Afrique centrale pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, conserver et gérer de façon durable les écosystèmes forestiers du bassin du Congo, dans le cadre du soutien du gouvernement canadien aux pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Ce, pour s'adapter et atténuer les conséquences des changements climatiques, conformément aux dispositions du protocole de Kyoto et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Politologue et analyste des politiques publiques, Isidore Kwanja a fait ses études universitaires en Belgique et au Canada, notamment en coopération au développement aux universités libres de Bruxelles et catholiques de Louvain, ainsi qu'en analyse des politiques publiques et gestion des organisations publiques à l'École nationale d'administration publique du Québec. Il a aussi fait les sciences politiques et relations internationales à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Isidore Kwanja est également détenteur de plusieurs certificats de formation spécialisés en droit international.
Portrait.
Monsieur Isidore Kwanja, comme cela a été dit dans le portrait que nous venons de suivre, vous êtes politologue et analyste des politiques publiques, mais également analyste des questions liées au changement climatique. Vous avez travaillé pour l'administration publique canadienne comme analyste des politiques publiques à la direction des affaires internationales sur le changement climatique au ministère de l'Environnement du Canada. Vous vous êtes beaucoup plus occupé des politiques publiques des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale et les questions liées au climat vous intéressent beaucoup. C'est à ce titre que nous vous recevons dans cette émission. Avec vous, nous allons parler du rôle important que jouent les forêts du bassin du Congo dans l'atténuation du changement climatique à la veille de la COP 25 qui aura lieu du 2 au 13 décembre prochain à Madrid, en Espagne. La première question d'abord, est-ce que vous allez participer à cette grande rencontre climatique?
Non, je ne vais pas participer, mais j'ai participé aux COP antérieures quand je travaillais encore sur les questions de l'environnement. Pour corriger un peu, un tout petit peu, ça fait maintenant une douzaine d'années auprès de l'administration publique, mais pendant cette douzaine d'années, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement et j'avais la possibilité d'analyser les politiques publiques des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC. C'était dans le cadre l'accompagnement de ce pays pour protéger les forêts du bassin du Congo. À l'époque, je me rappelle encore, c'était le Canada qui assurait la présidence du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Le partenariat pour les forêts des bassins du Congo a été mis en place à Durban en 2002. Il est composé de 10 pays membres de la COMIFAC et des pays développés, donc les bailleurs des fonds, notamment les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, la Norvège, qui accompagnent les pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale pour protéger justement cette forêt qui est le poumon de notre planète Terre. J'ai beaucoup écrit ma thèse de maîtrise en sciences politiques. J'ai travaillé sur les questions de changement climatique. Je continue mes recherches dans ce domaine-là. J'ai trouvé quand même qu'il était important parce qu'à partir de la semaine prochaine, tous les médias internationaux vont parler suffisamment
de la négociation de la COP 25. Pourquoi est-elle importante, cette COP 25,
Elle est importante dans la mesure où, si vous vous rappelez bien, à la COP 21 qui a eu lieu à Paris, on a signé ce qu'on a appelé l'accord de Paris. On a promis des milliards. Quand nous sommes allés, parce que je me rappelle encore, nous sommes allés à la COP 22 à Marrakech, c'était justement pour qu'on puisse voir dans quelle mesure ces fonds-là seront justement décaissés pour permettre aux pays, notamment les pays en développement, qui ont besoin de fonds pour protéger les forêts, notamment, si je peux, parce que je parle de la situation du Congo. Le Congo a une grande forêt qui est la deuxième après l'Amazonie. Mais lorsqu'on voit les retombées ou la contrepartie que les Congo ou les pays de l'Afrique centrale offrent à l'humanité, ils ne reçoivent pas la contrepartie équivalente aux efforts ou aux sacrifices consentis. C'est ainsi que je trouvais que c'était une bonne opportunité pour qu'on puisse quand même informer l'opinion publique de ce qui se passe, de ce que les pays membres de la COMIFAC peuvent prendre comme initiative pour qu'on puisse aller chercher suffisamment de fonds pour réinvestir auprès des populations autochtones qui vivent de cette forêt, qui sont obligées à préserver cette forêt, mais qui n'ont pas d'autres ressources. Parce que quand vous les refusez, la forêt, vous savez, pour les populations autochtones, ça sert pour construire des maisons, ça sert pour nourrir, pour chauffer la nourriture et tout ça, pour chauffer les bois et consorts, ça sert comme le produit pharmaceutique, donc ça sert à plusieurs éléments dans la vie courante des gens. Et lorsque vous leur demandez de protéger ces forêts parce que ça protège l'humanité tout entière dans les cas de la lutte contre le changement climatique, alors il faut qu'il y ait une contrepartie.
Alors justement, on dit que les forêts du bassin du Congo ont un rôle majeur à jouer dans l'atténuation du changement climatique. Comment et pourquoi?
Mais c'est parce que, vous savez, bon, c'est vraiment un peu trop technique, mais je vais parler dans un langage très simple.
Très simple, pour permettre aux auditeurs de comprendre.
Ça dit que les forêts réussissent à refroidir l'humanité. Parce que, comme vous le savez, le réchauffement climatique a été accéléré par notre niveau d'industrialisation. On parle ici des pays développés qui se sont développés en utilisant les industries qui ne tenaient pas compte de l'environnement, des conséquences sur le plan environnemental. Et donc, cette accélération de l'industrialisation a eu pour conséquence le réchauffement climatique. Et maintenant qu'on commence à se rendre compte que le monde se réchauffe de plus en plus, on essaye de trouver les mécanismes pour réduire ces réchauffements-là. Et la forêt contribue énormément en dehors de d'autres moyens qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. La forêt contribue énormément dans la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que on demande aux pays d'Afrique centrale
de préserver
cette forêt parce qu'elle protège l'humanité tout entière.
Et qu'est-ce que la RDC pourrait attendre de la COP 25?
Ben, ce que la RDC peut attendre de la COP 25, c'est quoi? C'est que, bon, d'abord, en allant sur place, on va savoir toutes les promesses qui ont été faites. Est-ce qu'il y a déjà de l'argent qui est disponible? Si cet argent est disponible, dans quelle mesure la RDC peut concevoir des projets pour aller pour avoir suffisamment de fonds pour réinvestir auprès des populations locales? Parce que maintenant avec le nouveau gouvernement qui est en place, s'ils peuvent comprendre que il est vraiment important que la RDC joue un rôle important dans ces domaines-là. Parce qu'aujourd'hui, la question des changements climatiques est primordiale. Elle est autant primordiale qu'on y met beaucoup de moyens financiers pour lutter contre les changements climatiques. Et nous contribuons, la RDC contribue énormément à lutter contre les changements climatiques. Et il faudrait qu'ils comprennent que nous avons tout intérêt à aller chercher de l'argent, parce qu'il y en a de l'argent pour lutter contre les changements climatiques. Et nous, on contribue déjà dans la lutte contre les changements climatiques, avec notre forêt. Mais maintenant, il faudrait que nous confectionnons des projets qui nous permettent à ce qu'on a cherché suffisamment d'argent, parce que cet argent-là va faire en sorte que si nous le réinvestissons près de la population trouve d'autres ressources, par exemple d'autres ressources énergétiques, ils ne vont pas aller couper les bois pour chauffer des maisons, pour chauffer la nourriture. Ils ne vont pas aller couper des bois pour construire des maisons. Vous savez, dans la lutte contre les changements climatiques, il y a des éléments importants. Il y a l'adaptation et l'atténuation. Atténuer les effets des changements climatiques ou s'adapter aux effets des changements climatiques. Et ces deux éléments-là nécessitent des moyens financiers. Et les moyens financiers, comme je l'ai dit tantôt là, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il est prévu que les pays développés puissent apporter de l'aide aux pays en développement pour lutter contre les changements climatiques.
Que recommandez-vous, Isidore Kwanja, aux dirigeants congolais? Parce que j'ai lu dans vos analyses, vous dites, malgré sa contribution importante à l'humanité, le bassin du Congo attire moins de fonds et de soutien international que les autres grandes régions forestières.
Oui, en fait, ce que j'ai proposé, j'ai eu à échanger avec certains conseillers du président et dans certains ministères pour expliquer que c'est que parce qu'il y a faiblesse au niveau de l'administration pour concevoir des projets afin d'obtenir des financements, mais on peut peut-être contourner cette faiblesse. Et j'ai proposé, par exemple, si on crée le gouvernement congolais demande à la francophonie de créer une organisation subsidiaire de la francophonie pour la protection des forêts du bassin du Congo. Et cette structure-là aura essentiellement pour mission de concevoir des projets, de capter des fonds à travers le monde qui sont destinés à lutter contre les changements climatiques. Ces fonds-là seront réinvestis auprès des populations autochtones d'Afrique centrale et ça va contribuer à lutter contre le changement climatique notamment. On va préserver la forêt, puis ça va apporter un soulagement sur les plans de la vie quotidienne, donc réduire un tout petit peu la pauvreté. Par exemple, si le gouvernement congolais estime que c'est une bonne initiative, il peut demander à la francophonie, par exemple, pour dire, la francophonie c'est 88 États membres. Ça fait un tiers des États membres des Nations Unies. C'est un poids politique sur les plans diplomatiques, un tiers des États membres de la francophonie. Présenter la chose de cette façon-ci. La forêt du bassin du Congo est le poumon de la Terre, de notre planète Terre. Donc, quand nous la préservons, c'est tout le monde qui en profite. Et notamment aussi les pays membres de la francophonie. Ils en profitent parce que cette forêt contribue à lutter contre les changements climatiques. En dehors de la francophonie, il y a donc tous les États profitent également des efforts que nous consentons pour la préservation donc de cette forêt et qui lutte contre les changements climatiques. Mais en contrepartie, parce qu'en ce moment-là, si on crée une structure pareille, eh ben, il va recruter des experts, que ce soit du pays, parce que la francophonie, c'est les pays développés, les pays en développement, les experts de tous les niveaux, qui vont concevoir des projets qui répondent aux recommandations des bailleurs des fonds et tout ça pour avoir des fonds nécessaires et réinvestir ces fonds au niveau des pays d'Afrique centrale pour que ceux-ci conservent la forêt qui contribue à lutter contre l'humanité, contre le changement climatique mondial. Ça pourrait être une initiative intéressante, d'autant plus que nous sommes le premier pays francophone au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas une institution de la francophonie en République démocratique du Congo.
La RDC ne peut-elle pas par elle-même s'engager à demander ce fonds?
Elle peut bien s'engager, mais il faut qu'elle ait des gens capables de travailler en respectant les standards des bailleurs de fonds pour qu'ils soient en mesure de, parce que les rapports des 10 dernières années démontrent que dans les flux financiers dédiés à lutter contre les changements climatiques, l'Amazonie a réussi à capturer 34%. La forêt d'Indonésie en Asie du Sud-Est, ils ont réussi à capter 54%. Mais le bassin du Congo a réussi à capter 11%, alors que nous sommes la deuxième forêt après l'Amazonie.
Pourquoi, selon vous?
Parce qu'il y a une faiblesse au niveau des administrations pour concevoir des projets qui soient viables et qui permettent à ce que on puisse avoir des financements nécessaires pour réinvestir cela auprès des populations locales, parce qu'il y a aussi, si le plan de la pauvreté, il faut dire que le pays, malgré toutes les richesses que Dieu a dotées aux pays d'Afrique centrale, mais c'est quand même des populations vivent dans la pauvreté la plus absolue.
La faiblesse au niveau des administrations, pourtant on a quand même beaucoup d'experts ici hein, en matière du climat, mais qui ne sont peut-être pas utilisés par le gouvernement.
Non, c'est comme je l'ai dit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent le faire, mais la structure de l'administration publique peut-être pose problème. C'est ainsi que je pense qu'il est nécessaire de réformer l'administration publique et de placer des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et ainsi, ils vont produire tout ce qu'ils ont comme compétence, les mettre au service de la population. Mais dans la configuration actuelle, vous pouvez être expert dans n'importe quoi, mais quand vous vous retrouvez dans ces conditions ici-là, vous n'allez pas produire un travail de qualité.
Le bassin du Congo abrite la seconde plus vaste forêt tropicale du monde. Et pourtant, selon des analyses des flux financiers entre 2008 et 2017, il se situe de loin derrière l'Asie du Sud-Est et l'Amazonie pour ce qui est de capter les fonds internationaux dédiés à la gestion durable et à la protection de la nature. Qu'est-ce qui explique cela?
En principe, si on prend l'ensemble des pays de la Comifat. La grande partie de la forêt du bassin du Congo se trouve au Congo-Kinshasa. En réalité, dans la portion qui peut revenir à l'Afrique centrale, donc à la Comifat, la RDC devrait avoir une part importante. Mais la plupart des initiatives qui sont prises au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, mais ça se fait ailleurs. Ça se fait au Cameroun, ça se fait au Gabon, ça se fait au Congo-Brazza. Mais ça se fait de moins en moins au Congo-Kinshasa. Pourquoi? Parce que soit on n'est pas intéressé, soit alors on ne s'y prend pas de la bonne façon pour pouvoir aller chercher suffisamment de fonds. J'ai dit par exemple à la COP 22 que le président Sassou a proposé un fonds blé. Mais cette initiative-là, serait peut-être le gouvernement congolais qui pouvait le proposer. Et puis, la plupart des financements dans le cadre de ces fonds-là pouvaient être réinvestis, par exemple, au Congo. Parce que si on regarde la proportion de la forêt que nous avons au Congo-Kinshasa versus ce que nous recevons par rapport à d'autres pays de la sous-région, je pense que on devrait avoir beaucoup plus que ce qu'on a maintenant. Simplement pour dire qu'il y a une faiblesse au niveau de l'administration. Peut-être il y a un désintéressement au niveau des autorités publiques qui pensent que bon, les richesses au Congo, c'est seulement les minerais. Alors que la forêt, aujourd'hui, c'est vraiment une ressource importante, même dans les cadres où on l'exploitait. Ça rapporterait beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on décide que bon, on va les protéger parce qu'on protège l'humanité, on devrait aussi avoir une contrepartie importante. Il faudrait que les autorités politiques et administratives comprennent que c'est une ressource. Et donc, qu'ils y mettent des moyens humains importants, de l'expertise, pour arriver à aller capter les fonds à travers le monde dédiée à lutter contre le changement climatique. C'est vraiment quelque chose que le gouvernement devrait prendre au sérieux et avoir ça comme une préoccupation importante.
Grande interview reçoit pour vous aujourd'hui Isidore Kwanjangimbo. Il est politologue et analyste des politiques publiques, mais également analyste des questions liées au changement climatique. Vous avez publié un livre intitulé « Régime international des droits de l'homme à l'épreuve du climat, cas de l'état insulaire des Maldives ». Ce livre est un plaidoyer pour une convention des Nations Unies pour la protection des réfugiés climatiques. Qui appelle-t-on réfugié climatique?
Un réfugié climatique, en fait, sur le plan juridique, cette appellation n'est pas encore acceptée. On dit, bon, les migrants, soit, mais moi, je suppose que les raisons pour lesquelles ces gens-là quittent leur milieu naturel méritent qu'on appelle ces gens des réfugiés climatiques. Mais quand on est réfugié, dans le sens de la Convention de Genève de 1951, on a un certain nombre de droits. Alors, le livre là que j'ai publié, j'ai pris un cas extrême, le petit état insulaire des Maldives. Selon les experts du GIEC, si la température monte à 2,5, les Maldives vont disparaître. Or, si les Maldives venaient à disparaître, ça dit qu'il n'y a plus d'état. Les éléments constituent d'un état, il y en a trois. C'est le territoire, la population et un État souverain. Et l'État souverain, comme vous le savez, la mission prioritaire d'un État, c'est de protéger la population et leurs biens. Et donc, s'il n'y a plus un État, donc il n'y aura plus quelqu'un pour protéger ces populations-là. Il est certain que si les Maldives venaient à disparaître, donc les territoires venaient à disparaître suite à l'augmentation du niveau des eaux, ces gens-là vont se sauver. Ils vont aller chercher refuge ailleurs. Mais lorsqu'ils vont aller chercher refuge ailleurs, il n'y a pas un instrument juridique au niveau mondial qui reconnaisse et qui donne les droits à ces populations-là. Alors, dans mon livre, j'ai développé les éléments suivants. On est convaincu aujourd'hui, avec les recherches qui sont faites au niveau des experts des Nations Unies sur le changement climatique, que le réchauffement climatique a été causé et accéléré par notre niveau de développement. Donc nous sommes conscients que c'est nous qui avons accéléré le réchauffement climatique. Nous, ben, généralement, les pays du Nord. Et ceux qui subissent beaucoup des effets des changements climatiques, ce sont les pays du Sud qui n'ont pas de moyens de lutter contre les effets des changements climatiques, notamment des inondations, des sécheresses et tout ce qui vient avec. Et donc, dans ce livre, j'essaye de faire
Vous plaidez pour que ces réfugiés, ces personnes qui quittent leur terre, leur pays à cause des phénomènes climatiques puissent avoir les mêmes droits,
avoir des droits
que les réfugiés politiques.
Oui, parce que il faut d'abord remonter à l'origine de l'adoption de la Convention de Genève de 1951. On a adopté cette convention, on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des populations qui sont persécutées par leur gouvernement. Vous savez, bon, ça dit que soit les populations sont persécutées par leur gouvernement, soit ils sont persécutés par d'autres communautés, mais le gouvernement ne peut pas les protéger. Et ces gens-là, ils vont trouver refuge ailleurs. Et lorsqu'ils vont trouver des refuges ailleurs, lorsqu'on les accepte comme réfugiés politiques, ils ont un certain nombre de droits. On leur fait pas de privilèges. Mais à l'époque, quand on a adopté cette convention-là, les questions des changements climatiques n'étaient pas vraiment une priorité. Donc, il n'y avait pas vraiment, un problème sérieux qui s'est posé en ce moment-là pour qu'on puisse inclure, ces éléments-là. Donc, pour qu'on puisse inclure aussi la situation des personnes qui fuient à cause des effets néfastes du climat. Et donc, moi, je développe les éléments suivants. Les instruments internationaux actuels ne sont pas adaptés à la réalité actuelle. Parce que la réalité actuelle, c'est que l'Organisation internationale des migrations dit que d'ici 2050, 200 millions à 1 milliard de la population sera obligée de quitter son milieu naturel à cause des effets des changements climatiques. Soit trop. Des inondations, des sécheresses, c'est trop. Donc, vous vous rendez compte qu'on parle de 200 millions à 1 milliard, c'est beaucoup plus que les réfugiés politiques. Donc, pour au jour d'aujourd'hui...
La planète est menacée.
Non seulement que la planète est menacée, mais que les populations qui n'ont pas créé les problèmes, c'est eux qui subissent les conséquences du changement climatique. Et donc, moi, je suis en train de plaider pour que soit on adopte un protocole additionnel à la Convention de Genève, soit on adopte carrément une convention pour protéger les réfugiés climatiques, qu'on reconnaisse d'abord qu'il y a des réfugiés climatiques. Parce que ces gens-là, ils ne quittent pas de leur propre gré. Ils sont obligés de partir. Parce que l'environnement naturel n'est plus vivable. Et parce que, quand ils n'ont pas de moyens pour aménager l'environnement dans lequel ils vivaient, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et quand ils vont ailleurs, ils vont se retrouver... Il y a un certain nombre de droits humains qui sont bafoués. On va prendre les droits à un environnement sain, les droits à l'éducation, les droits au logement, les droits à la santé. Tous ces droits-là sont bafoués. Donc je démontre que... Le problème des changements climatiques impacte sur nos droits humains. Et donc, on devrait reconnaître cette situation-là et faire en sorte que des personnes qui se trouvent dans une situation où ils sont obligés de partir, lorsqu'ils vont ailleurs, qu'ils aient un statut quelconque. On va les accepter. On va leur donner peut-être des facilités. Mais ça serait des facilités qu'on leur donne. Ça ne serait pas des droits. Je suis en train de plaider ici pour des droits. Parce que c'est une question mondiale qui est connue au niveau mondial que notre niveau d'industrialisation a des conséquences néfastes sur le climat et que les pays en développement subissent les conséquences des changements climatiques. Il faudrait que les États développés puissent accepter, parce que le problème souvent se pose au niveau de pays développés qui ne veulent pas adopter de telles conventions parce qu'on estime que si on le fait, ben, tout ce monde-là va se déverser vers le pays des...
Est-ce qu'à ce jour, on a des cas des réfugiés climatiques?
Il y en a beaucoup. Je vais vous donner l'exemple. Une catastrophe qu'il y a eu en Haïti.
Votre livre est disponible où? Où trouvez votre ouvrage, Monsieur Isidore Kwanja?
Pour le moment, il est vendu en ligne sur Amazon. Quand je suis venu, c'était dans la précipitation. Je n'ai pas pu avoir quelques exemplaires. Mais pour le moment, il est disponible dans Amazon.
C'était un plaisir de vous recevoir dans notre magazine Grande Interview pour parler de la COP25 qui débute le 2 décembre à Madrid, en Espagne.
Merci, madame.
Grande Interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Isidore Kwanja Ngimbo, politologue et analyste des politiques publiques, également analyste des questions liées au changement climatique. Avec lui, nous avons parlé du rôle important que jouent les forêts du bassin du Congo dans l'atténuation du changement climatique. Merci à Michel Kifinda qui a réalisé cette émission. Patrick Kiasongo a été à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.